Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table à partir de 12h55. Le retour de l'économiste Thomas Porchet dans un livre où il dénonce les cadeaux faits aux riches par les gouvernements en place et où il appelle à se saisir de l'arme économique pour rétablir l'équilibre en faveur des plus défavorisés. Mais d'abord, Péléas et Mélisande, créée en 1893. C'est cette pièce du Belge Maurice Maeterlinck que la Française Julie Duclos a choisi de monter l'été dernier pour son premier festival d'Avignon. 10 ans après ses débuts, avec les fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes, puis masculin-féminin et nos serments. Après Reims, Mulhouse, Tourcoing, Rouen, Rennes, et avant de rejoindre le Théâtre des Célestins à Lyon le 25 mars prochain et Saint-Quentin en Yvelines les 2 et 3 avril, elle se joue actuellement cette pièce aux ateliers Berthier, Théâtre de l'Odéon à Paris. Et Julie Duclos est notre invitée à écouter tout de suite sur France Culture, ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Golot part à la chasse. Il fait la rencontre de Mélisande, jeune femme perdue là, dans la forêt, comme un animal blessé, recroquevillé. Il la ramène au château et l'épouse. Mais entre les murs, c'est son demi-frère à lui. C'est de lui, en tout cas, qu'elle va tomber amoureuse. Et réciproquement.
Pourquoi pleures-tu ? N'ayez pas peur, vous n'avez rien à craindre. Pourquoi pleurez-vous ici toute seule ?
Ne me touchez pas ! Ne me touchez pas !
N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas. Oh, vous êtes belle.
Ne me touchez pas ou je me jette à l'eau.
Je ne vous touche pas, voyez, je resterai ici. N'ayez pas peur. Quelqu'un vous a-t-il fait du mal ?
Oui, oui, oui.
Et qui est-ce qui vous a fait du mal ?
Tous, tous.
Et quel mal vous a-t-on fait ?
Je ne veux pas le dire. Je ne veux pas le dire.
Voyons, ne pleurez pas ainsi. D'où venez-vous ?
Je me suis enfuie. Enfuie.
Oui, mais d'où vous êtes-vous enfuie ?
Je ne suis pas d'ici. Je suis perdue ici. Je ne suis pas née là.
Bonjour Julie Duclos.
Bonjour.
Voilà vos comédiens, non pas sur scène, mais en vidéo, en ouverture de cette pièce, Péléas et Mélisande, que vous avez choisi d'adopter. Le titre de la pièce met en avant le couple Péléas-Mélisande, alors que c'est plutôt l'histoire d'un trio amoureux, d'un trio malheureux. Où se noue, à vos yeux, le tragique de cette histoire, le tragique de la pièce ?
Oui, il a une expression très belle, mais Maeterlinck lui-même, il parle de tragique quotidien. Il en parle dans son livre Le Trésor des humbles, et j'aime beaucoup cette expression parce que elle a quelque chose de très paradoxal, puisque chez Maeterlinck, on n'est pas dans la grande tragédie, on pourrait dire, si on le dit vite comme ça, mais un tragique qui passe par les plus petites choses, qui peut-être est entre dans les ellipses, dans le hors-champ, et comme un espace invisible aussi qu'il y a entre les êtres, et qui est que ben, ce Golot qui a du mal à attraper ce rapport aussi entre Péléas et Mélisande, qui lui-même est fait de beaucoup de choses invisibles et qui nous échappent. C'est quand même une pièce qui travaille sur tout ce qui échappe en permanence, et le tragique qui passe par là, même si bien sûr il y a ce trio amoureux, et on peut parler d'une qui peut faire penser à Roméo et Juliette, et au fond d'une jeunesse qui a été fauchée. Aussi, je crois que c'est ça le plus tragique dans l'histoire. Mais ce qui est beau chez Maeterlinck aussi, c'est qu'on est toujours sur des questions, comment dire, existentielles, plus vastes aussi. Il y a les questions de l'amour, bien sûr, mais la question de la vie et de la mort est tout le temps très présente chez lui. Et de la relativité de l'existence, on pourrait dire. C'est comme s'il disait tout le temps, tiens, qu'est-ce qui fait qu'on est là et qu'au fond, on ne sait rien, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Il parle de ça aussi tout le temps.
Alors celui qui a même été éclipsé du titre par Maeterlinck, c'est le mari délaissé par Mélisande pour son frère Péléas, Golot, qui veut les confondre et en même temps, on a le sentiment qu'il ne veut pas voir, qu'il ne veut pas vraiment y croire. Qu'est-ce qui le rend complètement fou ? À quoi il n'a pas accès, ce personnage ?
C'est peut-être ça, ce qui le rend fou, c'est ce à quoi il n'a pas accès. Et au fond, il y a ce mot qui revient tout le temps, la vérité. Il demande la vérité. Mais qu'est-ce que c'est que la vérité ? La vérité, on sait bien qu'elle est relative, et jusqu'où on peut attraper la vérité ? Et jusqu'à la mort de Mélisande, c'est ce qu'il va lui... Ça va être les derniers mots. La vérité, dis-moi la vérité. Donc je crois que c'est peut-être ça contre quoi il bute. C'est quelque chose qu'on ne pourra jamais attraper. Et peut-être même en tant que metteur en scène, je continue d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette réalité du rapport de Péléas et Mélisande. Il y a cette scène très emblématique où il questionne son enfant, le petit garçon. Et effectivement, ce que décrit le petit garçon, c'est des choses, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien à la lettre. Il se passe des choses, mais dans un rien qui est, il regarde la lumière, ils sont debout, ils ne bougent pas, et l'enfant dit « ça fait peur ». Donc voilà, Golo, il est très concret, il veut savoir s'ils sont près du lit, où ils se sont embrassés, comment ils se sont embrassés, mais au fond, je crois que ce qui le rend fou, c'est la vérité de ce qu'on ne pourra jamais obtenir, finalement. Qu'est-ce qui fait la réalité d'un rapport ? Il y a que les êtres eux-mêmes pour le savoir.
Oui, puis il y a quelque chose de l'innocence, de cet amour aussi, de sa pureté. Ce couple, Péléas et Mélisande, c'est Claude Debussy avec son opéra qui lui a donné sa postérité, dépossédant peut-être un peu Maeterlinck aussi de ses personnages. On va les retrouver en musique et après on retrouve le texte. Parler de cet extrait, mes longs cheveux descendent, extrait de cet opéra de Claude Debussy, extrait de l'acte 3, scène 1, c'est l'air de Mélisande, ici interprété par la soprano Sabine Devielle. Vous avez demandé de, justement, Julie Duclos, de choisir un extrait à nous lire pour nous faire entendre les mots, le rythme, la voix de Maeterlinck sur son texte. Et vous avez justement choisi cet extrait-là dans le texte. Ça donnerait quoi? Si vous pouvez le lire.
Oui, alors je prends le début de la scène. Hein. Donc Péléas entre et Mélisande est seule. Hola, hola, oh, qui est là? Moi, moi et moi. Que fais-tu là à la fenêtre en chantant comme un oiseau qui n'est pas d'ici? J'arrange mes cheveux pour la nuit. C'est là ce que je vois sur le mur. Je croyais que c'était un rayon de lumière. J'ai ouvert la fenêtre, la nuit me semblait belle. Il y a d'innombrables étoiles, je n'en ai jamais vu autant que ce soir. Ne reste pas dans l'ombre, Mélisande, penche-toi un peu que je vois tes cheveux dénoués. Oh Mélisande, oh tu es belle ainsi. Penche-toi, penche-toi, laisse-moi venir plus près de toi. Je ne puis pas venir plus près, je me penche tant que je peux. Je ne puis monter plus haut. Donne-moi du main ta main ce soir avant que je m'en aille. Je pars demain. Non, non, non. Si, si, je partirai demain. Donne-moi ta main, ta petite main sur les lèvres. Je ne te donne pas ma main si tu pars. Donne, donne. Tu ne partiras pas. Je vois une rose dans les ténèbres. Où donc? Je ne vois que les branches du saule qui dépassent le mur. Plus bas dans le jardin. Là-bas, dans le vert sombre. Ce n'est pas une rose. J'irai voir tout à l'heure, mais donne-moi ta main d'abord, d'abord ta main. Voilà, voilà. Je ne puis me pencher davantage. Mes lèvres ne peuvent pas atteindre ta main. Je ne puis pas me pencher davantage. Je suis sur le point de tomber. Oh, oh, mes cheveux descendent de la tour. Oh, qu'est-ce que c'est? Tes cheveux descendent vers moi. Toute ta chevelure, Mélisande, toute ta chevelure est tombée de la tour. Je la tiens dans les mains, je la touche des lèvres, je la tiens dans les bras, je la mets autour de mon cou. Je n'ouvrirai plus les mains cette nuit. Laisse-moi, laisse-moi, tu vas me faire tomber. Non, 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 je n'ai jamais vu de cheveux comme les tiens, Mélisande. Vois, vois, ils viennent de si haut et m'inondent jusqu'au cœur. Ils sont tièdes et doux comme s'ils tombaient du ciel. Je ne vois plus le ciel à travers tes cheveux et leur belle lumière me cache sa lumière. Regarde, regarde donc, mes mains ne peuvent plus les contenir. Ils me fuient jusqu'aux branches du saule, ils s'échappent de toutes parts. Ils tressaillent, ils s'agitent, ils palpitent dans mes mains comme des oiseaux d'or et ils m'aiment mille fois mieux que toi.
On dirait que ta voix a passé sur la mer au printemps, dit Péléas à Mélisande. C'est aussi ça le style de Maurice Maeterlinck, prix Nobel de littérature en 1911, seul belge à avoir été consacré par ce grand jury, chef de file des symbolistes. Quelle est pour vous la particularité, Julie Duclos, de son écriture?
Ce qui est beau, c'est que ces envolées, qu'on pourrait dire des envolées lyriques comme ça de Péléas, comme celle que je viens de lire, c'est pas permanent. C'est là aussi où on pourrait se tromper, c'est on pourrait croire que Maeterlinck c'est ça tout le temps, c'est-à-dire que ce seraient des êtres qui parleraient comme ça tout le temps, alors qu'en réalité, si c'est des envolées à la lettre, c'est que c'est comme des percées. Et le reste de l'écriture, on pourrait dire, enfin d'une manière générale, moi ce qui me frappe dans cette écriture, c'est sa simplicité et c'est qu'elle est en même temps extrêmement concrète. C'est des êtres incarnés, c'est des situations de la vie, et donc il parle, on pourrait dire, chacun de manière très différente. C'est-à-dire là, la façon dont Péléas s'exprime, c'est pas du tout la façon d'être de Golo, qui est très différent, par exemple. Mélisande, elle, parle beaucoup moins. Donc il y a, voilà, ce qui frappe, je trouve, c'est cette dimension très très concrète et simple. Et c'est la simplicité, je crois, aussi dans son écriture, qui amène aussi l'extrême profondeur.
Entre simplicité, lyrisme parfois, poésie, pour mettre en musique cette langue, la langue de Maurice Maeterlinck, vous avez choisi, vous, de piocher dans un autre répertoire que celui de Claude Debussy, un répertoire plus contemporain, plus populaire, celui de l'ailleurs, de l'exil, avec notamment une version du célèbre chant de cigane Ederlesi et le morceau sans bagage de Barbara, l'étrangère de la pièce. C'est elle, c'est Mélisande, par qui le malheur arrive, penseront certains, ou au contraire la lumière. Au moment où tu entrais dans le vestibule, je t'ai vu changer de visage et probablement d'âme, comme on change de visage malgré soi, lorsqu'on entre à midi dans une grotte trop sombre et trop froide. Ça, c'est Arkel qui le dit dans la pièce en parlant de Mélisande. Elle est cette étrangère-là qui apporte la bonne ou la mauvaise nouvelle?
Oui, tout à fait. C'est par elle que tout commence. C'est d'ailleurs pour ça que j'aimais l'idée de commencer par du cinéma et que le moment où elle arrive réellement, le moment où elle entre sur le plateau, c'est l'endroit de ce château, ce lieu dans lequel tout va comme se précipiter, comme si ça précipitait les destinées. Mais au fond, avant même qu'elle n'arrive, ils le savent. Qu'est-ce que c'est que ce Péléas qui veut à tout prix partir avant même qu'elle n'arrive? Je trouve ça assez beau, quoi, comme ces effets de prédestination aussi. Et effectivement, Mélisande, on sait peu de choses d'elle. Tout est dit dans cette première scène avec Golo, quand il la rencontre dans la forêt. C'est visiblement une étrangère, puisqu'elle le dit elle-même. Elle vient d'ailleurs, on ne sait pas d'où. Elle a vu ou vécu des choses épouvantables, et même Golo écrira qu'il n'ose pas l'interroger. Peut-être qu'il sent qu'elle a vu quelque chose, je sais pas, de trop grand pour elle. Donc oui, il y a cette dimension-là qui me paraissait très importante et qui est une donnée très concrète aussi de Mélisande, bien sûr.
Pour le grand public, il est le juge Roban de la série Engrenage. Sur scène, c'est Philippe Duclos, qui est Arkel, qu'on vient de citer, qui dit aussi « Je suis très vieux, et cependant, je ne suis pas encore parvenu à voir clair en moi-même. » Il y a toujours cette idée de la clarté aussi dans cette pièce de Maeterlinck, que vous révélez bien par votre mise en scène, Julie Duclos, intérieur, extérieur des personnages, ce jeu de clair-obscur, la grotte, la forêt, le château. Sur quoi le théâtre peut, d'après vous, nous aider à faire la lumière? Qu'est-ce qu'il peut nous montrer?
Effectivement, on pourrait dire que c'était même le grand enjeu. La pièce est réputée immontable, c'est pas pour rien. Effectivement, il y a des espaces qui sont forts. Comment les représenter, ou en tout cas comment immerger le spectateur dans ces espaces-là qui ne sont pas anodins, puisqu'on sait que ces questions d'ombre et de lumière, ça influe sur les destinées, on pourrait dire. Péléas et Mélisande sont sans cesse en train de dire « Allons dans l'ombre, non, allons dans la lumière, je suis plus près de toi dans l'obscurité. » Et c'est une écriture de l'invisible aussi. Alors ça pose des vraies questions pour nous, forcément. C'est ça qui fait même que je sentais que ça, il y aurait besoin du son aussi, de la vidéo, de la scénographie aussi pour... rendre toute cette part sous-jacente, qui est que tout n'est pas dit, qu'il y a toujours un au-delà des mots et que les personnages sont toujours comme ça, oui, immergés dans, comme il y a une forme de cosmos qui était important pour moi aussi de révéler. Donc oui, c'est tout l'art du théâtre, sans doute, de comment faire apparaître ou sentir ou connecter le spectateur à des choses qui sont de l'ordre de l'invisible.
Oui, avec des procédés qui permettent aussi de reconfigurer cet espace mentale et physique qui est la scène en permanence. On parlait du film en ouverture, de la vidéo en direct que vous maniez sur scène, de ces structures coulissantes aussi.
Oui, j'avais besoin en même temps d'éléments très concrets. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait monter la pièce sur un plateau nu, par exemple. Et puis juste les mots, comme ça, la force d'évocation des mots. J'avais besoin aussi, mais c'est comme quand je parlais du tragique quotidien, c'est que c'est les deux. C'est-à-dire que j'avais aussi besoin d'une dimension très concrète, d'une fenêtre, d'une arrivée de lumière près d'une fenêtre. Et donc, d'où ces châssis, ces hauteurs, ces profondeurs, le vide. J'avais besoin, donc la scénographie est assez imposante, mais en même temps elle laisse de l'air, mais elle est en mouvement, donc elle permet comme ça des gros plans, ou parfois il y a une boîte comme ça qui se retire, qui permet aussi de redonner un espace pour simplement les corps comme ça, dans l'espace qui peut être à la fois le jardin, mais en même temps un espace, de cosmos. Donc oui, la scénographie, on a travaillé aussi sur ce mélange de quelque chose d'à la fois très réel, d'éléments réalistes, on pourrait dire, et en même temps métaphysique, qui est de la place pour la métaphysique en fait aussi.
Philippe Duclos, c'est un immense comédien, l'un des acteurs fétiches de Daniel Mesguich, et dans la vie c'est aussi votre père, Julie Duclos, Philippe Duclos, on l'aurait peut-être deviné. Voilà. S'il vous a transmis son goût des planches, vous n'avez pas choisi de poursuivre sur scène, malgré une formation au conservatoire, avec d'ailleurs Dominique Valadier et Alain Françon, qu'on va retrouver la semaine prochaine à la Colline pour une création, une mise en scène du nouveau texte de Peter Handke. Pourquoi être passé, vous, de l'autre côté de la rampe, du rideau, à la mise en scène?
Oh, ça s'est fait quand j'étais au conservatoire en dernière année, effectivement, ce premier projet, l'opportunité qu'on avait au conservatoire de créer un atelier d'élèves. Et je me suis dit, tôt, profite de l'école, si j'aimais bien diriger les copains, ça commence comme ça. Et puis je me suis dit, profite de l'école pour essayer, tout lancer. Ça a été, on pourrait dire, une révélation pour moi. Et ça a continué tout naturellement, mais après les choses sont aussi là dès l'enfance. Mon père, mais aussi ma mère, qui était metteur en scène, mes parents ont tenu une école pendant longtemps, et je crois que c'est des choses qui marquent aussi, parce que j'allais au cours, quoi, je regardais. Donc c'est, au fond, c'est une expérience du regard quand même, être metteur en scène, et je sais que ça a marqué aussi mon enfance, de regarder des acteurs travailler, le travail du refaire aussi, de la fabrication, toutes ces choses-là. C'était déjà là, finalement.
Vous parlez de diriger les copains et diriger son père, c'est comment?
C'est très bien.
Il vous laisse de la place?
Oh oui, alors là, vraiment, oui, ça, c'est pas quelqu'un qui prend de la place. Et... Non, c'était tout à fait, c'était très bien, oui.
Diriger les copains, c'était aussi le cas dans Masculin-Féminin, dans Nos Serments. Vous aviez envie de renouveler un peu la bande, d'aller vers d'autres comédiens, ici avec cette mise en scène de Péléas et Mélisande.
C'est surtout que dès lors qu'on monte un texte, il y a un enjeu de distribution en fait qui apparaît, et donc c'est des moments que j'aime beaucoup d'ailleurs distribuer, des personnages, trouver poétiquement qui dans la vie serait Péléas, serait Mélisande. Donc de fait, c'est ça qui fait qu'il n'y a pas tous les copains, mais s'il y a des rôles pour eux, c'est évident qu'ils sont dedans. Donc ça se fait. C'est plutôt un travail un peu poétique qui se fait comme ça, mais Alix Rimmer, qui joue Mélisande, était dans tous mes projets.
Il était déjà Arkel, Philippe Duclos, dans la mise en scène d'Alain Olivier au théâtre Gérard Philippe en 2004, mais parmi les metteurs en scène qui ont vraiment donné ces lettres de noblesse à ce texte de Maurice Maeterlinck, qui est surtout Claude Régis, qui nous a quittés récemment, Intérieur en 85 et la mort de Tintagiles en 96. Claude Régis, connu pour ses mises en scène du silence, de la lenteur, il évoque les directives données à ses acteurs pour jouer Maeterlinck.
Je crois que tous les vrais créateurs, et c'est vrai aussi pour la peinture et pour la musique, et on écrit toujours avec les mêmes notes, il s'agit, avec du connu, de nous faire percevoir de l'inconnu. C'est ça le poète, c'est ce qui différencie les vrais écrivains de tous les gens qui remplissent du papier et qui croient écrire. Alors, à partir de là, il s'agit que l'acteur ne boycotte pas le travail du poète. Il s'agit qu'il soit poète lui-même, qu'il réinvente le texte, qu'il réinvente la sonorité, et que, comme les musiciens disent qu'il y a du silence dans la musique, et je le dis tout le temps aux acteurs, non seulement il faut prendre du temps et faire des silences entre les mots, mais il faut aussi que le silence s'entende sous les mots, que le silence soit dans le bruit de la parole. Et une parole sans silence n'est que du bavardage ou de la langue de bois.
Alors, je ne sais pas si Claude Régis, Julie Duclos, a fait partie de près ou de loin de votre famille de théâtre. Est-ce que c'était un oncle lointain? Mais comme lui, ce qui est sûr, c'est que vous accordez, et on l'entend dans cette pièce, une grande importance au texte, aux mots, voire au silence. Quelles consignes vous donnez à vos acteurs ?
Oui, bah là, c'est magnifique. Hein, d'entendre Claude Régis, il a tout compris et c'est tellement près de tout ce que dit Maeterlinck, que justement, sur le silence dans les mots. Donc, c'est tout l'enjeu aussi et qui, quelque part, rejoignait mon travail qui est... comment dire, on commence pas par travailler sur le texte en lui-même. Bien sûr, on va travailler sur les situations et c'est important ce que se disent les uns et les autres. Mais ce qui est important, c'est le paysage qui sous-tend le tout. Donc, de travailler sur ce moteur intérieur ou sur le paysage intérieur, ce qu'on appelle le monologue intérieur. Donc, ça peut prendre différentes formes, mais on parle beaucoup de ce qu'il y a au-delà des mots, parce que c'est ça qui permet que l'acteur soit connecté à cette circulation silencieuse et secrète. On n'est pas toujours totalement à ce qu'on dit. Enfin, je veux dire, là, j'invente rien. C'est un processus vivant dans la vie. Il y a toujours, on sait bien, oui, au-delà de ce qu'on dit, on fait passer des choses. C'est pas seulement avec ce qu'on dit qu'on parle. Donc, je crois que toute l'écriture de Maeterlinck, elle est à cet endroit-là. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire avec les acteurs, d'enclencher.
Midi 22 sur France Culture.
France Culture. La grande table. Olivia Jesbert.
Avec notre invitée, la metteur en scène Julie Duclos. Elle vient de monter ici à Paris, aux ateliers Berthier, Théâtre de l'Odéon, Péléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck, après Reims, Mulhouse, Tourcoing, Rouen, Rennes. On la retrouvera, cette pièce, cette metteur en scène et ses acteurs, ses comédiens, au Théâtre des Célestins à Lyon le 25 mars prochain et à Saint-Quentin en Yvelines les 2 et 3 avril. Julie Duclos, comme dans Fragments d'un discours amoureux de Barthes que vous avez mis en scène, votre première pièce que vous avez montée au Conservatoire il y a 10 ans, il y a un procédé que vous avez encore utilisé dans votre avant-dernière ou dernière pièce Mayday de Dorothée Zumstein et qu'on retrouve ici dans cette adaptation de Pélas et Mélisande. C'est les effets de collage, cette esthétique du fragment. Qu'est-ce qu'elle apporte pour vous au spectateur ou dans la narration, dans la compréhension ?
Oui, c'est vrai que ça revient et je sais pas pourquoi j'ai tant besoin ou pourquoi je suis attirée par des écritures du fragment ou j'ai toujours eu ce goût du collage. Peut-être que il y a quelque chose qui m'intéresse dans le fait de briser le continuum des choses, c'est-à-dire soit de la représentation ou de la fiction, ou donc d'où ce travail aussi qui joue entre réel et fiction souvent, ou peut-être ça ramène de décadrer aussi. La vidéo apporte d'autres points de vue. Je pense que c'est une manière de régénérer peut-être le sens ou le présent, mais effectivement c'est très important dans mon travail, et disons que ça se fait naturellement aussi pour moi, enfin j'y pense pas, c'est comme une manière d'être peut-être.
Et de jouer et de faire se télescoper aussi d'autres disciplines, d'autres univers, des fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes. Vous aviez mélangé là une ambiance très nouvelle vague, dans le diptyque masculin-féminin il y avait du Godard, dans Nos serments c'était inspiré plus ou moins de La maman et de la putain de Jean Eustache. Ici il y a un film, une atmosphère d'un réalisateur qui vous a inspiré.
Oui, bien sûr, on a beaucoup regardé évidemment tout le cinéma de Tarkovsky pour les atmosphères, la poésie, la dimension métaphysique en scénographie. Je suis après très très empreinte du cinéma de Bresson, et c'est marrant parce qu'on peut m'en parler en voyant la pièce, même si c'est voilà. Et puis le cinéma de Carax aussi. Il y a un film Paula X en fait qui est très très proche de, comme une espèce de version moderne de Péléas et Mélisande. Ça m'a frappée en le redécouvrant et en travaillant sur l'œuvre. Les liens sont insensés, et je crois que c'est volontaire. Donc voilà, ça peut être des inspirations comme ça.
Alors cette pièce, elle n'est pas très gaie, va-t-on dire. Il y a quand même une ambiance aussi de fin du monde, de monde en déclin qui court à sa perte. Il y a beaucoup de romans, de films et même de séries en ce moment sur cette thématique de l'effondrement. Et c'est le cas d'une série qui passe en ce moment, qui vient de passer sur Canal+, 8 épisodes de 15 minutes où l'on suit plusieurs destins, c'est à voir ou à revoir sur MyCanal. L'effondrement, et si cette fameuse fin du monde avait vraiment lieu, pas demain, mais maintenant. On écoute un extrait.
C'est un entraînement, c'est ça ?
Non, monsieur. La procédure a été lancée dans la nuit.
C'est maintenant.
Quand tu dis que le pays va être paralysé, ça veut dire quoi?
C'est tout le système qui risque de se casser la gueule.
Il n'y aura plus de transport, il n'y aura plus d'essence, on pourra même pas communiquer. Papa, je peux venir avec vous?
Non, tu restes là.
Ça va faire quoi?
Attendez!
C'est la fin d'un monde.
Are you okay?
Ça va s'arranger? Non?
Voilà, extrait de cette nouvelle série décalée de Canal+, signée Guillaume Desjardins, Jérémy Bernard et Bastien Huguetto. Le grand collapse, Julie Duclos, vous vous en apparaissez, vous, avec cette pièce de la fin du 19e de Maurice Maeterlinck. C'est le texte qui était très prophétique, ou ce sont vos choix d'interprétation, vos choix de lui donner, d'accentuer cette résonance contemporaine, très fin du monde?
En fait, elle est là. J'ai rien poussé d'ailleurs, au sens où l'écriture fonctionne tellement par écho que voilà, c'est à nous aussi d'en laisser l'écho résonner, mais c'est frappant quand on lit la pièce c'est frappant comme une chose latente. C'est une atmosphère, c'est des pauvres, c'est cette famine comme ça. Il y a des petites phrases de ci de là, mais c'est pas plus que ça. Mais effectivement, on est comme sous le joug d'un effondrement à venir, de quelque chose à venir, et qui est terrifiant parce qu'on sait qu'il va y avoir une fin, mais on ne sait pas bien quand ni comment. Mais là, j'invente rien, hein, c'est dans la pièce. Donc ça ne peut que aujourd'hui, pour nous lecteurs ou spectateurs, ça résonne incroyablement.
Maeterlinck ne donne pas la clé.
Oh bah non, mais parce qu'il y en a pas, mais non, il donne aucune clé parce qu'on n'est pas dans, il n'en parle pas concrètement, vous voyez, pas aussi concrètement que cette série par exemple, mais on voit bien que il en parle du fond d'une inquiétude, la question de l'inquiétude collective dans laquelle nous sommes tous, on est tous un peu des Péléas et Mélisande finalement, puisque Péléas et Mélisande sont ces deux-là particulièrement des êtres inquiets, je dirais. Donc connectés à cette question, quand je parlais tout à l'heure de la relativité de l'existence, c'est aussi une question de tout temps. La fin des choses, notre fin à nous, et effectivement, on a une question de la, oui, une fin, un monde qui s'effondre, oui, comme le château qui est fissuré, qui menace de s'effondrer si on ne fait rien.
En attendant, ce château et votre Péléas et Mélisande sont à voir aux Ateliers Berthet, Théâtre de l'Odéon à Paris, jusqu'au 21 mars, pièce créée au Festival d'Avignon et qui va continuer à tourner partout en France. Merci à vous, Julie Duclos.
Merci beaucoup.